watching you. Houdini's in the cut, I got the city pounds, I'm on alert, ready to gas you much. I feel caught out here alone, but I can't let it get the best of me. Nobody schools you on how to do you, what you do ain't got no legacy. I pray to thee, Godmother, keep my words sincere. Kingpin on these men, show these girls no fear. Let me dominate on every hating motherfucker watching. Let me dominate on every basic bitch that try to stop me.
All right.
Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Société de surveillance où tous nos moindres faits et gestes sont épiés, contrôlés, calculés, puis enregistrés dans d'immenses bases de données, réfléchir sur le rôle colonial, capitaliste et oppressif de la police et des prisons s'avère plus que jamais incontournable. Quand de nouvelles vidéos d'interventions policières font scandale par leur violence raciste, les dirigeants, les policiers et les politiciens parlent de pommes pourries. Mais si on observe la tendance de fond, ces bavures se répètent depuis des décennies. Les écarts de conduite des policiers sont systématiques, la violence policière est systémique. Malgré ça, le lobby policier réussit à éviter sa remise en question en pointant du doigt les gangs de rue, la prolifération des armes à feu et d'autres épouvantails pour justifier des augmentations budgétaires constantes. Alors que la crise climatique est imminente, que les prisons pour personnes migrantes se construisent et se remplissent à vue d'œil, et que le racisme systémique se perpétue sans entrave, l'argent ne cesse de couler à flot vers les forces policières et les institutions carcérales. Et évidemment, ce sont toujours les mêmes qui en payent le prix. À coups de millions, l'État permet à la police d'être toujours plus armée et aux prisons d'être toujours plus bondées. Or, aussi effrayante et omniprésente soit-elle, ces institutions peuvent être détruites. Historiquement, énormément de communautés ont vécu sans police ni prison. L'histoire de la police et des prisons sur l'île de la Tortue est bien documentée. Il s'agit d'un horrible récit où des colons ont mis sur pied des institutions pour réprimer toute forme de contestation à l'ordre capitaliste et colonial. Ce sont la police et les prisons qui ont permis aux bourgeois blancs de développer un système raciste sur un territoire ne leur ayant jamais été cédé. Les différentes communautés autochtones ont été les premières à souffrir de ces institutions et sont, encore à ce jour, largement surreprésentées parmi les victimes de la police et dans les prisons. Dans cette deuxième saison du Verger au complet, au menu, on vous propose des pistes de réflexion un peu plus spécifiques que les épisodes de la première saison. Toujours sous forme d'entrevue, avec des personnes aussi passionnées que passionnantes, on abordera, entre autres, les impacts de ces institutions sur les travailleurs et travailleuses du sexe, la police au sein des communautés autochtones, le féminisme anticarcéral, la militarisation de la police, la justice transformatrice et les prisons pour migrants et migrantes. Il est grand temps d'en finir avec la vision libérale, hypocrite et mensongère, voulant que tous les vices de la police soient le fruit de quelques pommes pourries. Des racines aux bourgeons, les services de police de tous les paliers sont autant de pommiers dégueulasses dans un horrible verger de pourriture. Attaquons-nous donc au verger au complet.
On le sait, la police ne discrimine et n'opprime pas également tous les groupes sociaux. On la voit rarement dans Westmount, alors que l'on sait très bien que les milliards détournés dans les paradis fiscaux ne proviennent pas de Montréal-Nord. La police est continuellement en train de faire du profilage social et racial, et ce sont souvent les groupes moins représentés dans l'espace public qui subissent la surveillance, le harcèlement, la violence et la discrimination policière. En s'acharnant particulièrement sur ces groupes, les policiers utilisent leur autorité pour faire avancer leur ligne politique d'extrême droite, patriarcale et moralisatrice. Par exemple, les personnes qui font du travail du sexe sont particulièrement visées par la police et par le fait même surreprésentées dans les prisons. De plus, les personnes qui pratiquent le travail du sexe ont été particulièrement affectées par les mesures mises en place par les politiciens lors de la pandémie. À Montréal, Stella, un organisme par et pour les travailleuses du sexe qui existe depuis plus de 25 ans, œuvre à la défense des droits de ces travailleuses. Pour ce premier épisode de la seconde saison du Verger au complet, on discute avec Sandra Wisley, directrice générale de Stella et militante de longue date pour les droits des travailleuses du sexe. Première question. Pour mieux se situer, comment définirais-tu le travail du sexe?
Donc, le travail du sexe, c'est une catégorie là, qui inclut beaucoup, beaucoup de choses. C'est un terme politique, en fait, qu'on s'est donné en tant que communauté pour tout se rejoindre dans une lutte ensemble. Donc, c'est tout travail où on échange des services sexuels contre de l'argent, contre autre chose aussi. Parfois, dans des économies informelles, on peut parler d'échanger contre de la drogue, d'échanger contre une place où dormir ou peu importe d'autres choses. Et donc, ça inclut plusieurs sphères. Ça inclut les personnes qui travaillent dans la pornographie, ça inclut les personnes dans les bars de danseuses, les salons de massage, des escortes, des personnes qui travaillent sur la rue. Donc, des personnes qui travaillent dans des endroits très, très, très formels, dans des endroits très informel, de façon indépendante, qui travaille aussi pour d'autres personnes. Donc, ça inclut là, toute une catégorie là, de personnes. Puis à la fin, ce qu'on a en commun, c'est qu'on échange des services sexuels contre quelque chose, généralement de l'argent, et que pour nous, évidemment, c'est un travail. Donc, c'est une activité économique. C'est pas une exploitation inhérente qu'on subit, même si le travail est une exploitation inhérente, mais pas plus spécifique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour payer nos factures, généralement.
Quelles sont les relations typiques entre la police et les travailleuses du sexe?
Donc, c'est sûr que les relations sont très négatives entre la police et les travailleuses du sexe. Donc, on sait qu'on a des unités entières au SPVM dédiées à trouver les travailleuses du sexe et nous harceler de toutes sortes de façons, souvent sous l'égide de la moralité. Peu importe comment les lois changent, le SPVM a encore cette attitude-là qu'on est donc immoral et qu'on a besoin d'être surveillé, d'être contrôlé. Et puis, donc, depuis 2014, le travail du sexe, il est entièrement criminalisé au Canada. Et donc, cette nouvelle criminalisation-là vient aussi avec un changement d'attitude envers nous. On est passé de criminel à victime d'exploitation, même si on commet des crimes, c'est pas très logique, mais c'est la vision du gouvernement actuel. Donc, les policiers, maintenant, ils ont un mandat de nous sauver, en plus de nous criminaliser. Et puis, ça les rend encore plus agressifs, encore plus violents, encore plus créatifs dans les façons de nous déshumaniser. Un exemple, là, avec le SPVM récemment, c'est Opération Radar. Donc, c'est une opération du SPVM où ils ont demandé à tous les employés des hôtels et des taxis de l'industrie du tourisme de savoir comment repérer une travailleuse du sexe. Bon, vraiment sur la base de profilage, là, complètement absurde, et de nous dénoncer à la police. Donc, sous la guise qu'on est sûrement tout exploité et que ce serait une façon de nous sauver, qu'on est probablement toutes mineures, etc. Donc, la police est en train de mobiliser le citoyen moyen comme agent extension de la police pour surveiller les autres personnes dans la société et nous dénoncer de cette façon-là. Donc, on voit que quand on est vu comme des victimes, c'est quelque chose que la population est prête à faire. Qu'elle ferait pas ça si la police dirait, bon, nous, on veut juste arrêter des travailleuses du sexe, on n'aime pas les travailleuses du sexe, eh bien, on n'arriverait pas à avoir cette mobilisation-là. Mais quand on dit aux gens que c'est une question de nous sauver, que c'est une question de mettre fin à l'exploitation, eh bien, l'employé moyen d'un hôtel va même se sentir bien d'appeler la police sur nous. Donc, c'est ce qu'on voit dans les dernières années, là, dans les relations, qu'il y a cette augmentation-là de ce type de surveillance qui est vécue vraiment de façon très violente là, par les personnes concernées.
Quelles sont les conséquences concrètes sur les personnes qui pratiquent le travail du sexe? Peux-tu nous donner des exemples?
Oui, absolument. Donc, les conséquences de la criminalisation et de l'harcèlement policier sont à toutes les sphères de l'industrie. Donc, on peut penser, par exemple, aux femmes qui travaillent sur la rue. Donc, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de répression. Il y a des policiers qui vont être en contact avec nous tous les jours, presque, quand on travaille sur la rue, qui vont vouloir menacer d'arrêter nos clients. Donc, ça veut dire qu'on doit toujours négocier, se protéger de la police versus prendre des mesures de sécurité. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre sécurité peut aussi nous rendre plus visibles, peut nous rendre plus à risque de contact avec la police. Donc, souvent, on va se retrouver à prendre des risques qu'on ne voudrait pas prendre. Donc, par exemple, plutôt que de passer plusieurs minutes à parler avec un client dans sa voiture, d'analyser la situation, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les prix, c'est quoi les services. Eh bien, on va sauter dans la voiture tout de suite. Et évidemment, la dynamique de pouvoir va changer grandement et ça crée donc des conditions où un agresseur va trouver des opportunités de nous cibler. Ou si on pense, par exemple, à des femmes qui travaillent, disons, de façon indépendante et qui annoncent en ligne, eh bien, c'est sûr que le client ne sait pas s'il parle avec un policier et la travailleuse du sexe ne sait pas si elle parle avec un policier. Donc, tout le monde doit faire très attention. Et puis, donc, ça implique parfois de ne pas parler en détail des services qu'on offre, de ne pas être capable de bien négocier, de ne pas être capable de faire une évaluation du client. Souvent, les travailleurs du sexe aimeraient demander des pièces d'identité, mais on sait que ce ne sera jamais possible dans un contexte où le client peut se faire arrêter, il ne va pas vouloir donner des pièces d'identité. Donc, ça fait qu'il y a ces répercussions-là. Donc, dans toutes les sphères du travail, que tout ce qu'on fait, le chauffeur, il est criminalisé si on demande de l'aide. Si on demande à une amie de nous emmener au travail, eh bien, elle a commis un crime de proxénétisme également. Donc, ça fait en sorte qu'on est toujours en train d'avoir peur de la police et de se protéger de eux. Il y a également beaucoup de descentes de police qui vont se passer dans les endroits de travail du sexe. C'est souvent les policiers qui vont venir dans soit un bar de danseuse ou un salon de massage où il y a peut-être 5, 6, 7 femmes qui travaillent. Et on va voir 20, 30, parfois même 50 policiers arriver tous ensemble. Pour eux, c'est comme une expédition, une petite activité sociale, là, et puis ils vont évidemment déporter toute personne qui n'a pas sa résidence permanente. Ils vont évidemment fouiller tout le monde, arrêter beaucoup de personnes si elles ont des drogues ou autre chose. Et puis au niveau psychologique, évidemment, c'est quelque chose qui est très, très lourd à porter de quand on se promène dans la société toujours là, avec la peur de la police. Puis on sait que le système carcéral aussi s'étend beaucoup plus que juste les agents de la police. Il y a aussi les agents, par exemple, de la DPJ, la protection de la jeunesse, qui vont être très hostiles envers les travailleurs du sexe. Donc on doit toujours, si on a des enfants, avoir peur de l'intervention de l'État de cette façon-là. On peut pas déclarer nos impôts sans avoir peur de commettre un crime, en fait, et que soit l'Agence du revenu ou la police reviennent vers nous. On peut pas aller à la banque sans avoir peur que notre argent soit saisi et dénoncé à l'État. Donc, on se retrouve vraiment là, dans une situation de surveillance constante qui, outre les arrestations, les déportations, les détentions, il y a aussi un autre élément de lorsqu'on est criminalisé qui est tout le temps, toute notre vie, peu importe qu'est-ce qu'on fait, qui nous atteint tout le temps. Et je pense que c'est une des choses un des pires effets de la criminalisation qui souvent n'est pas visible dans les statistiques ou dans... On n'a pas une histoire à raconter spécifique à ça. C'est une accumulation de vivre sous la criminalisation qui est très lourde.
Nous cherchons affamés les territoires de la noirceur car les étoiles meurent d'avoir voulu briller. Les satellites tournent autour de nos têtes mais lorsqu'on fait la fête on s'arrache de leur orbite tant des euphories ici.
Il y a des risques de criminalisation pour vos proches également. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Oui, absolument. Donc, depuis 2014, ce que la loi dit, c'est que toute personne qui aide une travailleuse du sexe à travailler commet l'offense là, de proxénétisme. Donc, il n'y a aucune nécessité de prouver qu'il y avait une exploitation, qu'il y avait une coercition, une violence quelconque. Et la personne, elle n'a même pas besoin de se faire payer pour ses services. Donc, on parle vraiment si deux travailleurs du sexe travaillent ensemble et se réfèrent un client, par exemple, eh bien, ils viennent de commettre l'offense de proxénétisme. Les réceptionnistes, les chauffeurs, les collègues de travail, même si on demande à un membre de la famille de nous emmener voir un client, si on utilise quelqu'un comme aide pour mettre nos annonces en ligne, eh bien, toute façon d'aider une travailleuse du sexe, c'est du proxénétisme. Et il y a une autre loi également qui parle du bénéfice matériel. Donc, tout l'argent, en fait, qu'on fait est d'un fruit de la criminalité. Et toute personne qui partage cet argent-là est aussi quelqu'un qui commet un crime. Donc, On va parler notamment de si on paye quelqu'un pour nous aider, on paye un ami pour être notre gardien de sécurité, eh bien cette personne-là aussi, eh bien c'est un crime qu'elle commet. Et puis notre argent, si on le met à la banque, il peut être saisi aussi. Et puis donc ça va vraiment impliquer au niveau criminel toutes les personnes autour de nous. Il y a quelques exceptions dans la loi. Donc on parle de nos enfants ne peuvent pas être arrêtés si on paye, si on les nourrit avec notre argent de travail du sexe. Mais même les exceptions ont ensuite des exceptions aux exceptions qui font en sorte que la majorité des exceptions ne s'appliquent même pas dans la plupart des cas. Et puis l'objectif derrière ces lois-là, c'est vraiment entièrement d'éradiquer le travail du sexe. Donc le gouvernement était très, très clair lors du passage de ces lois-là que ce n'est pas un objectif de nous protéger, de nous donner des meilleures conditions de travail ou d'améliorer nos vies. C'est vraiment de nous éradiquer entièrement. Et puis donc la loi, elle est écrite dans ce sens-là, de rendre impossible le fait de travailler dans l'industrie du sexe. Évidemment, dans les faits, les travailleurs du sexe continuent de travailler. Cette loi-là ne va pas nous empêcher. On a encore des factures. Il n'y a personne qui paye notre loyer avec cette criminalisation-là. Donc, c'est sûr que tout le monde continue de travailler, mais dans des conditions qui sont beaucoup pires et beaucoup plus dangereuses aussi.
Comment la COVID a transformé la surveillance policière des travailleurs et travailleuses du sexe, particulièrement dans le travail de rue?
Donc, la COVID est arrivée avec tout de suite, évidemment, les grands pouvoirs de santé publique. Surtout au Québec, il y a eu une vague très répressive au début du COVID, ce qui est très dommage parce que dans le milieu VIH, qui est l'autre pandémie qu'on vit depuis 40 ans, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui ont été développées au fil des années qui prouvent très clairement que la répression n'est pas un outil de santé publique utile. C'est quelque chose qu'on sait très bien, mais la santé publique tout de suite s'est pliée, là, en fait, à l'attitude répressive du gouvernement du Québec. Et puis, donc, on a vu les contraventions qui ont commencé assez tôt. Et puis, évidemment, lorsqu'un policier a un pouvoir supplémentaire qui lui est donné, toujours, dans toutes les situations, c'est les personnes marginalisées qui vont être ciblées d'abord et avant tout. Et puis, c'est ce qu'on a vu. Donc, les personnes en situation d'itinérance, les personnes visibles dans l'espace public, comme les travailleuses du sexe, ont tout de suite vécu la répression. Et cette répression-là, elle vient de deux façons. Donc, on parle d'avoir une contravention, oui, qui est, parfois, il y en a beaucoup qui sont donnés, parfois, il y en a moins aussi qui sont donnés, mais c'est le fait que le policier a maintenant ce pouvoir-là. Donc, le fait qu'il peut donner une contravention veut dire qu'il peut demander des pièces d'identité, qu'il peut rentrer dans l'espace des gens et intervenir de cette façon-là. Et puis, donc, ça ajoute une couche de harcèlement supplémentaire et de menace. C'est ce qu'on a vu beaucoup, là, les policiers à Montréal. On sait sur la rue, ils ne vont pas arrêter tout le monde tous les jours, ils ne vont pas donner des contraventions à tout le monde tous les jours, mais ils vont être très menaçants et harcelants. Donc, on a eu beaucoup de femmes qui nous ont rapporté des policiers qui les menaçaient de « je vais te donner une contravention », qui était très intimidant, très violent avec elles là, de façon constante, et que ça les forçait là, à trouver des... En plus d'être dans une pandémie, de manquer d'argent, de devoir aussi fuir la police beaucoup plus. Et ce qu'on a vu aussi, c'est assez rapidement à Montréal qu'il y a eu des numéros de téléphone de dénonciation qui ont été mis en ligne pour dénoncer là, nos voisins qui ne respectent pas les règles de COVID. Et évidemment, très, très rapidement, les personnes qui n'aiment pas les travailleuses du sexe, qui ont un travail du sexe dans leur quartier, sur leur rue, ont commencé à appeler la police. C'est ce qu'on a eu beaucoup d'échos, là, de beaucoup d'appels de la population à la police pour dénoncer des travailleuses du sexe. Donc, on sait que quand il y a une communauté qui est vue comme indésirable, dès qu'il y a un pouvoir supplémentaire qui est donné à la police ou à la société, eh bien, les gens vont s'accaparer ce pouvoir-là puis essayer de l'utiliser contre nous également. Donc, je sais que parfois, il y a des personnes qui, OK, oui, on pense à des personnes qui ne sont pas marginalisées et qui ne respectent pas les règles COVID pour des raisons absurdes et que ça peut faire du bien, des fois, de dire, ah, mais tant mieux pour eux s'ils ont une contravention. Mais dans les faits, ces gens-là vont toujours être la minorité de ceux qui souffrent de cette répression-là. Puis c'est les personnes marginalisées là, qui portent le poids de ça. Donc nous, chez Stella, avec nos collègues de plusieurs autres organismes du milieu de l'itinérance, du milieu du VIH et puis de la réduction des méfaits, dès le début de la pandémie, une de nos premières actions, c'était de se créer un comité pour demander l'amnistie des contraventions, pour essayer de travailler, là, pour faire des revendications là-dessus. On est encore en train de travailler là-dessus jusqu'à maintenant, malheureusement, mais c'était un des impacts premiers là, dès que le COVID est arrivé, que la répression elle a augmenté. Puis on le voit jusqu'à maintenant avec le passeport vaccinal, qui devient aussi une excuse pour les policiers pour rentrer dans des endroits. Et maintenant, comme ils peuvent demander les pièces d'identité pour voir le passeport vaccinal, ça leur permet de ne pas avoir une raison valable pour interpeller quelqu'un, mais de le faire quand même et que c'est maintenant justifié. Donc, les pouvoirs policiers, on le voit, s'accumulent comme ça de toutes sortes de façons contre l'industrie du sexe. Un policier du SPVM peut jouer sur le fait que parfois il fait une enquête criminelle, parfois il est un inspecteur de la ville, parfois il est en train de faire les règles de santé publique. Donc avec tous ces pouvoirs-là qui s'accumulent, ça fait qu'on n'a aucun droit face à un policier qui a envie de nous interpeller.
Pourquoi la police s'attaque aussi fort à des crimes qui sont essentiellement sans victimes?
Donc, c'est sûr que c'est l'objectif même hein, de l'invention de la police dans notre société et du code criminel également. Donc, les policiers font ce qu'ils se font dire, en fait, par les lois qui sont passées par nos élus. Et donc, on sait que le gouvernement fédéral, à travers le code criminel, a mis beaucoup d'énergie sur le fait de criminaliser toutes sortes de choses qui ne devraient aucunement être criminalisées, comme on parle des drogues, notamment, le travail du sexe, la pauvreté en général également, qui est criminalisée de toutes sortes de façons. Et puis, donc, c'est leur mandat, c'est ça qu'ils doivent faire. Et puis, je pense aussi qu'on est des cibles faciles et que pour les policiers, et on les voit parfois dans des tables de contestation, des tables de quartier, où ils sont très, très fiers de pouvoir venir dire aux résidents du quartier, eh bien, on est en train de vous débarrasser de ces personnes-là, regardez combien de contraventions on a donné à des personnes itinérantes. C'est quelque chose qu'ils vont s'en vanter puis être très, très fiers et penser qu'ils sont en train de contribuer à quelque chose de bien dans la société. Et évidemment, pour ce qui est du travail du sexe, le fait qu'on est passé là, à nous définir comme victimes en plus de juste criminels, eh bien, ça fait que pour eux, c'est plus vu comme un crime sans victime, mais c'est vu comme si on est des femmes exploitées qui ont besoin d'être sauvées. Donc, évidemment, ça les motive également à nous cibler davantage. Donc, pour nous, c'est clair que ce qu'on a besoin, c'est un changement, oui, au niveau de la culture de la police, et beaucoup moins de policiers aussi, hein, parce qu'on sait qu'on a beaucoup trop de policiers et qu'ils n'ont rien à faire, en fait, et puis c'est comme ça qu'ils vont nous cibler. Et ils doivent payer aussi pour leur existence. Donc, les contraventions font partie de cette méthode-là de payer pour leur travail. Ils sont aussi hein, dans un système capitaliste. Mais il faut d'abord et avant tout changer les lois. Donc, on a besoin de décriminaliser, on a besoin de vraiment retirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du code criminel pour retirer ce mandat-là. Parce que tant que les policiers ont comme mandat d'éradiquer toutes les drogues, d'éradiquer tout le travail du sexe, eh bien, c'est sûr qu'ils vont continuer de nous cibler, là, peu importe qu'est-ce qu'on fait au niveau des pratiques policières.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là deux, trois femmes qui faisaient le tapin. Moi, j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie et la folie. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous des amants, il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie, la joie et l'anarchie, la joie dans Paris.
Pourquoi le travail du sexe n'est pas défendu par les milieux de gauche comme les autres formes de travail?
Donc, je pense que le travail du sexe, c'est quelque chose qui génère des réactions très émotionnelles de la part de beaucoup de personnes. C'est quelque chose aussi qui est mal compris. Puis, on a tellement l'habitude dans notre société de penser au travail du sexe comme presque un concept théorique, en fait, comme si on n'est pas des vraies personnes ou un peu comme une mythologie de travail du sexe. Et c'est très difficile pour nous d'être visibles publiquement. Donc, ça fait aussi que souvent, il y a beaucoup de conversations sur nous qui ne nous incluent pas du tout. Et donc, il y a évidemment une alliance très, très proche entre l'extrême droite, souvent religieuse, conservatrice, et certains groupes féministes qui se disent de gauche et qui sont impliqués aussi dans d'autres questions de gauche, mais qui ont une haine profonde des travailleuses du sexe et des femmes trans. Donc, on voit souvent un mélange de ces discours-là qui sont difficiles à défaire. Et je pense aussi que pour beaucoup de personnes qui sont dans des luttes anticapitalistes, qu'à première vue, penser au travail du sexe, eh bien, c'est vu comme une version extrême du capitalisme. On est rendu en train de vendre des services sexuels qui ne devraient jamais être marchandisés, tout ça, et que pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose de très théoriquement problématique avec ça. Mais de notre côté, les travailleuses du sexe, évidemment, on est un mouvement de travailleuses. Donc, le mouvement moderne des travailleuses du sexe s'est développé beaucoup avec les mouvements syndicaux dans les années 60-70. Et c'est de là qu'on vient, c'est notre vision. Puis je pense aussi que pour beaucoup de femmes dans l'industrie du sexe, la pratique du travail du sexe est une façon de lutter contre le capitalisme. On sait que beaucoup de travailleurs du sexe, on fait le travail du sexe parce qu'on est en situation de pauvreté, parce qu'on rejette aussi souvent des emplois plus formels et on préfère être dans des économies informelles à côté de ce système-là. Et puis à la fin, souvent, eh bien, ce qu'on fait en tant que femme pauvre, c'est sortir de notre classe sociale, de pouvoir aller avoir accès à des personnes riches, à l'argent des personnes riches, et à le ramener dans nos communautés. Donc, pour beaucoup de personnes, le travail du sexe, c'est une pratique anticapitaliste. Pour beaucoup d'autres aussi, c'est une pratique de survie dans le monde capitaliste. Mais c'est très dommage pour nous de voir souvent ce manque de solidarité-là et que nos collègues de la gauche sont souvent réticents à nous supporter. Puis évidemment, dans les dernières années, avec cette montée-là du discours d'exploitation qui va emprunter beaucoup à des luttes anticapitalistes. Hein. On est tous contre l'exploitation au travail quand on lutte dans ces milieux-là. Donc, il va emprunter beaucoup de ce langage-là. C'est sûr que ça porte beaucoup à confusion, je pense, pour beaucoup de personnes. Mais à la fin, si on regarde, par exemple, un organisme comme Stella, depuis les tout débuts, où est-ce qu'on est impliqué? On est impliqué dans la justice pour les personnes migrantes, on est impliqué contre la police, on est un des groupes fondateurs de la coalition pour définancer la police ici à Montréal. On est impliqué dans toutes les luttes qui devraient être en solidarité avec nous, mais souvent cette solidarité-là, elle n'est pas retournée.
Des gens pensent que c'est une fabulation de parler de l'abolition de la police et des prisons. Qu'en penses-tu?
Ah, mais c'est pas une joke pour nous, en fait, c'est très sérieux. Il faut abolir la police et les prisons parce que ça n'a aucune utilité dans notre société. Tant qu'on a des personnes qui n'ont pas assez de nourriture à manger, qu'on a des personnes qui vivent toutes sortes de misères énormes, on n'a pas les moyens en tant que société de payer tout cet argent-là pour la police, de construire des prisons, d'incarcérer les personnes. C'est tellement une atteinte profonde à la dignité humaine, à tout ce qu'on devrait vouloir comme société. Puis oui, il y aura toujours des personnes qui commettent des actes de violence. Il y a d'autres façons de gérer cette violence-là. Puis on le voit à chaque fois que la répression, la punition ne fonctionne pas. Ces agresseurs-là que tout le monde est content de voir enfermés en prison, eh bien, c'est nous, dans notre communauté, qui les recevons quand ils sortent de prison et qui sont encore plus violents et qui sont encore plus endommagés psychologiquement. On ne va pas régler ces problèmes-là à travers la prison, on va régler ces problèmes-là à travers d'autres choses, incluant de la compassion, incluant de se donner les conditions physiques, matérielles, financières pour être capable de vivre et de ne pas s'exposer à ces violences-là. Donc, pour nous, c'est très sérieux, ce combat-là. On sait que dans les prisons provinciales, environ 80 % des femmes qui sont incarcérées ont une expérience de travail du sexe. Et ce qu'on sait aussi pour nous, c'est que tant au niveau des femmes autochtones assassinées, disparues, qu'au niveau des autres femmes qui vivent la violence, que les mêmes femmes qui sont le plus à risque de violence sont les femmes qui sont le plus à risque d'incarcération et de contact avec la police. Donc, si on veut mettre fin à la violence envers les femmes, il faut mettre fin à la police qui est cette source là de violence et de conditions qui facilitent la violence.
Depuis des années, des travailleuses du sexe s'organisent et se battent pour améliorer leurs conditions de travail et les rendre plus sécuritaires. Or, la police et les politiciens s'acharnent sans répit à tenter de les enfermer, voire de les éradiquer en créant de nouvelles lois et en les appliquant brutalement.
Ces lois ont des conséquences immondes sur la vie et les corps des travailleuses du sexe qui sont continuellement surveillées et harcelées. En situation pandémique ou non, lutter au front et en solidarité avec les travailleuses du sexe, c'est s'assurer que les personnes particulièrement vulnérables ne soient pas en danger continuel. Ne pas dénoncer, c'est la base, mais il faut aller plus loin. Il faut abolir la police et les prisons. C'est tout pour ce premier épisode de la deuxième saison du Verger au complet. Merci à Sandra d'avoir accepté notre invitation.
Mais croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot.
Ça va. Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
BTW and Live Theater is back. Black Theater Workshop and La Manufacture present Pipeline. We are back after 2 years with a dual language presentation of the off-Broadway hit Pipeline by Dominique Morisseau, translation by Mishka Lavigne. Pipeline shares the story of Nia, a single mother and teacher dedicated to the success of her students and her teenage son Omari. Tensions are mounting at his school, and Nia must find a way to rediscover her connection with her son and his connection with himself. Pipeline will be presented at Théâtre La Licorne from April 12th to 23rd in English and April 26th to May 8th in French. For tickets, call 514-523-2246 or visit théâtrelalicorne.com. This is a Black Theatre Workshop production and a CKUT co-presentation.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
CKUT. CKUT.
Dans nos sociétés de surveillance, où tous nos moindres faits et gestes sont épiés, contrôlés, calculés, puis enregistrés dans d'immenses bases de données, réfléchir sur le rôle colonial, capitaliste et oppressif de la police et des prisons s'avère plus que jamais incontournable. Quand de nouvelles vidéos d'interventions policières font scandale par leur violence raciste, les dirigeants, les policiers et les politiciens parlent de pommes pourries. Mais si on observe la tendance de fond, ces bavures se répètent depuis des décennies. Les écarts de conduite des policiers sont systématiques, la violence policière est systémique. Il est grand temps d'en finir avec la vision libérale, hypocrite et mensongère, voulant que tous les vices de la police soient le fruit de quelques pommes pourries. Des racines aux bourgeons, les services de police de tous les paliers sont autant de pommiers dégueulasses dans un horrible verger de pourriture. Attaquons-nous donc au verger au complet.
Trigger warning. Nous tenons à vous avertir que cet épisode du Verger au complet traite de sujets sensibles, dont les violences sexistes et sexuelles. L'État et la gendarmerie insistent sur le fait qu'il est nécessaire de protéger la population en emprisonnant les personnes qui auraient commis des crimes, et ce, peu importe la nature du crime, ses motifs ou encore les désirs de la victime, s'il y en a. Le chemin vers la prison passe par le processus pénal, qui commence par l'arrestation et qui est suivi de procédures juridiques menant à déclarer une personne criminellement responsable d'un acte commis. Ces mécanismes ont des conséquences catastrophiques sur l'ensemble des personnes détenues ainsi que leur entourage. De plus, ces dernières n'affectent pas les différentes franges de la population de la même manière. Qu'elles soient détenues, survivantes ou encore proches d'une personne incarcérée, les femmes, trans ou cisgenres, sont particulièrement affectées par le système pénal. Dans cet épisode du Verger au complet, on discute ainsi des enjeux liés au féminisme anticarcéral avec Lux, qui est juriste et s'implique également dans différents collectifs féministes, antiracistes et queer. Tout d'abord, comment est-il possible de définir le féminisme anticarcéral? Qu'est-ce qui le distingue du féminisme libéral?
Donc, premièrement, le féminisme libéral est un courant qui est intéressé par l'égalité des droits. Il ne considère pas que le système en soi est de façon inhérente mauvais, mais plutôt que les inégalités proviennent du fait que les principes libéraux ne sont pas assez appliqués. Donc, il suffirait donc de réformes juridiques pour atteindre une égalité des genres. Le féminisme libéral, c'est le féminisme mainstream, qu'on peut aussi appeler de féminisme bourgeois, parce que dans le fond, il avantage juste certaines femmes, soit les femmes cis, hétéra, bourgeoises et blanches. On peut aussi dire que ce féminisme mainstream est un féminisme carcéral, parce qu'il croit que la solution aux violences sexistes, c'est la répression et l'emprisonnement des hommes qui commettent ces actes. Le féminisme anticarcéral, c'est quoi? Mais ça s'oppose à cette vision-là. C'est un féminisme qui ne s'intéresse pas juste aux femmes blanches et bourgeoises, c'est un féminisme qui s'intéresse à toutes les femmes, et donc et les personnes de la diversité de genre, et donc aussi aux femmes qui sont touchées par le système carcéral. Ils considèrent que la prison est nuisible pour les femmes et aussi pour les hommes, et que ça ne favorise pas du tout une égalité des genres. Le féminisme anticarcéral est également un antiracisme et un anticapitalisme, dans la mesure qu'il comprend la prison comme un outil de contrôle de classes populaires et des personnes racisées. Autrement dit, le système pénal sert les intérêts du capitalisme et la suprématie blanche, en plus de renforcer le patriarcat.
Pourquoi les féministes anticarcérales ont-elles eu besoin de formuler une critique anticarcérale dans une perspective féministe plutôt que de se joindre à d'autres mouvements anti-prison, tels que les mouvements de libération des prisonniers et prisonnières politiques ou encore les anarchistes qui sont traditionnellement contre les prisons?
Une analyse féministe est nécessaire parce que la prison affecte différemment les hommes que les femmes. Je vais expliquer cela avec trois situations de femmes qui sont touchées de façon distincte par la prison. C'est une catégorisation qui a été effectuée par Gonelaire et Cordeau dans son livre « Pour elles toutes ». Donc, premièrement, il y a les femmes qui sont victimes de préjudices. Une façon par laquelle le système pénal ne les protège pas, c'est dans la définition même des crimes. Certains préjudices, comme les difficultés d'accès à l'éducation ou à la santé, ne sont pas considérés comme des crimes. Ensuite, il y a aussi le fait que la plupart des violences sexuelles restent impunies par le système pénal, dans la mesure que les femmes ne portent pas toujours plainte, ou en fait, peu souvent. Aussi, le procureur général décide de ne pas poursuivre toutes les plaintes, et souvent dans les procès, l'auteur des violences est trouvé non coupable, ou même lorsqu'il est, les peines sont considérées trop minimes. De plus, il est à noter que les profils des victimes influencent la sentence, autrement dit, lorsque la victime est une femme pauvre, utilisatrice de drogue, cela peut amener une peine plus mince pour l'auteur des actes. Donc, le système pénal, en laissant largement impuni les crimes des hommes envers les femmes, sert les intérêts du patriarcat. Ça, c'est un point que les féministes mainstream y partagent. Par contre, selon ce courant, la solution serait que tous les hommes qui commettent ces actes-là soient envoyés en prison. Mais nous, on considère que le fait que des centaines de milliers d'hommes soient en prison n'est pas une solution féministe. Ça serait plutôt de l'ordre de la vengeance, dans la mesure qu'étant donné le caractère structurel des violences sexuelles en prison, les auteurs de ces crimes risquent d'en être victimes à leur tour aussi. De plus, ça enlève la possibilité pour la collectivité de travailler à réparer et à transformer l'auteur de ces crimes. Aussi, souvent, la victime elle-même ne sait pas ce qu'elle recherche la prison pour l'auteur. Donc, le système pénal ne répond pas aux besoins des victimes de retrouver une maîtrise de leur vie. Puis aussi, le système pénal encourage les acteurs de violence à se prétendre innocents, donc vu la menace de la prison, et donc ça n'encourage pas les auteurs à exprimer des remords. Ensuite, il y a les femmes enfermées. Donc, les femmes incarcérées appartiennent majoritairement aux classes populaires, sont issues de l'immigration, de l'histoire coloniale, un niveau d'éducation inférieur au reste de la population, généralement, beaucoup de problèmes de santé mentale. Puis aussi, il y a une sous-représentation de femmes lesbiennes et de femmes trans. Puis, il faut noter qu'une grande partie des personnes femmes en prison ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance ou leur vie, parce que donc même si elles ne sont pas en lien, elles ne sont pas allées en prison pour le fait d'être victimes, il faut prendre ça en considération. Aussi, il faut prendre en considération que pour des raisons de socialisation, les femmes agissent plus rarement seules pour leurs crimes. Donc souvent, il y a un homme dans le décor qui, par exemple, qui sans lui, une complicité, sans lui, elle n'aurait pas commis le crime. Aussi, il faut voir que les conséquences de la prison sont différentes pour les femmes dans la mesure que elles se retrouvent plus souvent isolées. Les hommes conjoints quittent plus les femmes incarcérées que ce que les femmes font aux hommes incarcérés. Et ils ont aussi plus de difficultés à se trouver un partenaire par la suite. Aussi, il y a la majorité des femmes qui sont incarcérées pour l'homicide d'un proche, elles ont été des fois victimes de cette personne, donc des fois elles sont enfermées pour s'être défendues face à la violence du patriarcat. Puis finalement, il y a les femmes qui sont des proches de personnes incarcérées, et donc c'est parce que à cause de la socialisation, ce sont surtout les femmes qui ont le rôle social de le travail de care, le travail de soins. Donc, c'est important de voir toutes les femmes qui sont pas emprisonnées, mais qui sont touchées par la prison. Il y a énormément de coûts, notamment monétaires, mais aussi émotionnels. Par exemple, le fait d'avoir son conjoint en prison, c'est difficile pour la relation. Aussi, souvent, les proches vont ressentir de la honte. Ils sont stigmatisés comme étant coupables par association. Ils peuvent avoir des symptômes dépressifs aussi. Donc, c'est difficile à vivre, être un proche d'une personne incarcérée.
Sans télé, sans patron, sans état ni patrie. Une jolie maison à deux pas de la sortie. Où la vie est douce grâce au miel de chacune. Que ça tire ou ça pousse, ça se sert les plumes. Pas envie, pas le goût de vivre chacune pour soi. Ça réchauffe, voyez-vous, de partager.
Le système de justice est intentionnellement compliqué, surtout lorsqu'on n'a pas fait d'études en droit. Serait-il possible de nous expliquer la conception du système de justice et à quoi pourrait ressembler une justice anticarcérale?
Oui, donc le système judiciaire et administratif peut être vu comme étant composé de plein de sous-systèmes. Donc, en ce qui concerne les préjudices qui sont criminalisés, il y a le système criminel, le système du droit civil, puis le système de l'IVAC. Voyons les fonctions de chacun. Donc, le but du droit criminel, c'est la dissuasion de la population par la menace de la prison, qui marche pas très bien, en fait. Il y a aussi la rétribution et punition. Donc, c'est lié à l'idée qu'une infraction mérite d'être punie. Donc, c'est proche de la vengeance, d'une certaine façon. Il y a aussi la réhabilitation, un objectif qui est très mal rempli par le système carcéral, et l'élimination, éliminer la présence d'une personne en société, surtout pour les peines à perpétuité. Donc, il faut comprendre que dans le droit criminel, c'est la relation entre l'État et les individus. C'est parce qu'on considère qu'un individu a brisé, d'une certaine façon, le contrat social, qui est de respecter les lois, qu'il a envers l'État, donc que celui-ci le réprime en retour. Donc, l'accent n'est pas mis sur le tort qui est causé à la victime. La victime n'est qu'un témoin. Ensuite, dans le droit civil, mais le droit civil, ça sert à gérer les relations entre les gens. Donc là, oui, la victime va être agente. Ça sera, par exemple, la personne demanderesse, la victime, contre la personne défenderesse, l'agresseur. Donc, le droit civil peut couvrir les actes de violence, dont les violences à caractère sexuel. Dans ce système-là, il y a les principes de responsabilité et de réparation. Par exemple, pour un cas d'agression sexuelle, une victime pourrait recevoir de son agresseur, s'il est trouvé responsable, un montant qui correspond aux dommages matériels et émotionnels qu'elle a subis. Ici, l'État, ce n'est pas une partie, donc comme j'avais mentionné. Le problème est que, pareillement avec le système criminel, la menace de payer un montant élevé pèse sur la partie défenderesse, ce qui fait en sorte que l'agresseur, par exemple, il va tenter de se défendre et nier la version de la victime. Donc, ça n'encourage pas vraiment la responsabilisation puis l'accountability. Aussi, si jamais son agresseur est pauvre, bien, la victime, son jugement ne lui servira pas parce que la personne peut déclarer faillite et donc la victime ne pourra toucher à rien. Finalement, il y a l'IVAC, qui est le système d'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui a récemment été réformé. Donc ici, les victimes peuvent faire une demande pour recevoir un montant ou des services, tels que des services psychologiques, dépendamment de leur situation. Elles n'ont pas besoin d'avoir fait une plainte à la police préalablement et elles n'ont pas besoin de connaître même le nom de l'agresseur. Donc c'est vraiment la relation État-victime qui est ici en jeu et le but est la réparation. Donc on considère que le crime est un problème social pour lequel l'État doit assumer certains coûts. Par contre, ici, le problème, c'est que ça ne responsabilise pas les agresseurs parce qu'ils ne sont pas au courant qu'une demande a été faite. Donc, les agresseurs ne sont pas responsabilisés dans ce système-là. Donc, on voit que ces deux derniers systèmes sont imparfaits, même s'ils sont plus intéressants que le droit criminel, qui, lui, est clairement oppressif. Donc, une justice anticarcérale féministe, selon moi, mettrait l'accent sur les principes de réparation, de responsabilisation et accountability et de transformation. Donc, c'est une justice transformatrice qui prendrait en charge les besoins des victimes, tels que les services psychologiques et autres, puis la responsabilisation, donc mettre en place un cadre dans lequel les agresseurs, les personnes qui ont commis des préjudices, sont encouragés à prendre responsabilité sur ce qu'ils ont fait, à comprendre et voir comment est-ce qu'ils peuvent demander pardon, puis réparer d'une certaine façon les torts, s'engager à ne plus commettre des tels actes, puis le tout en ayant les besoins des victimes en avant-plan.
Une des questions centrales du féminisme anticarcéral est celle de la violence à caractère sexuel. Tu nous as parlé des façons dont les féministes anticarcérales veulent y remédier, notamment avec la justice transformatrice. Mais voudrais-tu élaborer un peu plus sur la perception ou la compréhension de ces violences d'un point de vue féministe anticarcéral?
La vision du féminisme anticarcéral est vraiment opposée à celle du système pénal, dans la mesure que, dans la conception du système pénal, ce sont des actes isolés, les violences sexistes et sexuelles. Ce sont des actes isolés, faits par des individus isolés, et donc la répression individuelle, ça marcherait. Donc, nous, dans le féminisme anticarcéral, on considère que, étant donné le caractère systémique des violences sexuelles, mais il y a un besoin pour une réponse systémique et pour un accent sur ce qui fonde les violences, c'est-à-dire le patriarcat. Donc, c'est important de voir les violences genrées comme s'inscrivant dans les systèmes d'oppression, dont le patriarcat, mais aussi la suprématie blanche et le capitalisme. Donc, on ne peut pas combattre ces violences-là sans s'attaquer au système d'oppression. Donc, ça passe par l'éducation, la prévention, puis aussi, comme mentionné plus tôt, la justice transformatrice. Et donc, dans une conception où les agresseurs, ce n'est pas des monstres et ce n'est pas des exceptions. Donc, voilà. Mais je tiens à dire aussi que le féminisme anticarcéral ne cherche pas à blâmer les victimes qui utilisent le système pénal dans la mesure qu'il y a peu, des fois, de ressources actuelles pour avoir des processus de justice informatrice, surtout avec des personnes qui ne sont pas dans nos communautés. Par contre, il faut le voir plutôt comme un échec collectif lorsqu'on a recours au système pénal et entreprendre des mesures qui favorisent notre autonomie en lien avec la justice informatrice.
Las mujeres que no amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre, las que se si tocan a las suyas corre sangre. Las que saben que la historia la escribió el hambre.
Las que prefieren no presentarla a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las compas en las calles. Las que hacen más nada para que el corazón no le falle.
Las morsas, las focas, las zorras. Las frikis, las chornis, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado.
A las que miran de reojo de las que hablan bajo. A las que perder no tienen un carajo. Las que hablan por ellas, las que hablan por las demás. A las que no contratan porque piensan daremos problemas.
Somos las que no se rinden jamás.
Quelle est la vision des féministes anticarcérales sur la police?
Ouais, le féminisme anticarcéral, il dépasse juste la prison. Dans le fond, ça s'attaque vraiment au système pénal au complet. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux de parler d'abolitionnisme pénal féministe. Donc, il s'attaque à l'ensemble d'institutions qui concernent la pénalité, c'est-à-dire la police, la justice criminelle, puis la prison. Et aussi, donc, à toutes les mesures post-prison aussi, comme la probation, puis avoir les agents de probation, etc. Donc, l'abolitionnisme pénal n'est pas réductible aux luttes seulement contre la prison. Puis, c'est aussi intéressant de ne pas avoir cet accent-là juste sur les prisons, dans la mesure qu'il y a aussi des mesures, comme le bracelet électronique, qui dépassent les murs de la prison, mais qui constitue la surveillance et qui concerne la pénalité. Donc, la police est une institution répressive dans son essence même et donc opprimante dans son essence même. Donc, c'est sûr que les féministes anticarcérales s'y opposent également.
Quels sont les collectifs féministes anticarcéraux actifs à Tutiaki, Montréal? En quoi consiste leur travail?
Il n'y en a pas tout à fait. En fait, il y a des collectifs contre les prisons. Il y a un collectif qui s'appelle Collectif contre les prisons, Anti-Carceral Group aussi, qui, j'imagine, doivent avoir une vision féministe aussi dans leur travail. Sinon, il y a aussi le collectif Féminisme et Droits associé à l'UQAM, qui est composé de militantes juristes de gauche, puis qui, dans le passé, ont eu des activités sur le féminisme anticarcéral, parce que certaines, notamment, s'intéressent à la profession aussi de criminaliste, donc dans la défense des personnes accusées, ou pratiquer le droit carcéral pour améliorer les conditions de vie de personnes détenues. Mais c'est ça, le collectif, ça ne se concentre pas juste sur les luttes anticarcérales. Donc, ce qui veut dire que le terrain est là pour des groupes qui voudraient se former, des groupes féminisme anticarcéral. Je pense que ça serait vraiment des plus pertinents.
Comme nous l'avons vu dans cet épisode, le système carcéral n'est pas une solution souhaitable pour répondre aux violences sexistes. Non seulement tout le monde n'est pas égal devant le système de justice, mais les prisons ne règlent en rien les violences du patriarcat. Elles les accentuent. Or, il n'existe pas de solution unique pour réparer les torts causés à autrui, ni pour guérir des blessures subies. C'est pourquoi nous devons réfléchir dès aujourd'hui aux moyens les plus adaptés à nos besoins et nos réalités. Plusieurs ouvrages proposent des pistes pour régler nos conflits avec une justice transformatrice et de nombreuses alternatives à la police ainsi qu'au 911. On vous laisse en description des listes de ces outils. C'est tout pour cet épisode du Verger au complet. On vous revient sous peu avec du nouveau contenu. Et d'ici là, la manifestation annuelle du collectif opposé à la brutalité policière aura lieu ce 15 mars à 17h30. Le départ a lieu au métro Lionel Gros. La manif a pour thème cette année « La police, c'est colons en crise ». On se voit dans la rue!
Lunes. Mercredi. Thursday. Friday.
Your hands up, so if you're ready for the road, let your friend them know. We're ready for the road.
Samedi. Sunday. CKUT 90.3 FM, a different sound every day of the week. Donate now, help support your community radio.
Thank you.
grass they allocate. Come back home and hear the DJs them a mash it. But a flash me come for flash it. A mash me come for mash it. Ram me come for ram me come for ram me. A jam me come for jam me. Say long time them no hear me in a dance, but I was giving other singers a chance. Long time me no chuck it in a dance, rubbing with that thing till she start to roll my arms. But a flash me flash me come for flash it. Oh ho, a mash me come for mash it. Ram me come for ram me come for ram me. A jam me come for jam me come for jam me. Oh ho.